Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes présentes, d'abord d'être présentes, de leur action passée et de leur action à venir. Je commencerai par rappeler que l'Argentine est un pays d'immigration dans lequel beaucoup des immigrés récents ou plus anciens ont conservé leur nationalité d'origine. Ce qui a permis, à partir de cette nationalité européenne la plupart du temps conservée, d'ouvrir des procès dans différents pays d'Europe. La première juridiction qui va effectivement s'ouvrir sur ce fondement, cette nationalité, est la juridiction française. Et c'est effectivement ce que nous a rappelé Gabriel Laya et M. Germain Gros lorsque s'ouvre, à peu près à l'époque des Malouines, l'instruction pour les deux religieuses Alice Daumont et Léonie Duquet. Cette partie, disons, de la procédure est quelquefois un peu mise de côté. Je voudrais la rappeler pour que l'on comprenne bien, si certains se sont posé la question de savoir pourquoi les deux religieuses et pourquoi pas les autres à l'époque, pour que l'on comprenne bien effectivement comment la justice a fonctionné à ce moment-là. L'instruction a été menée à l'époque par Philippe Texier, mais auparavant, il fallait apporter au juge d'instruction des informations sur les faits que l'on voulait lui présenter. Si ce n'est des preuves, du moins des noms, du moins des témoignages, du moins des documentaires. Et il est indéniable que les deux figures parmi les très nombreux Français disparus sur lesquels un maximum d'informations a pu être rassemblé étaient les deux religieuses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu, je ne vais pas dire la chance, mais parce qu'elles ont eu une arrestation qui s'est faite à Buenos Aires, ce qui n'est pas le cas des autres Français, et elles ont été incarcérées et portées disparues à partir du plus grand centre de torture d'Argentine, l'ESMA. On estime que l'école supérieure mécanique de la marine a effectivement vu passer entre 5000 à 6000 personnes et qu'il y a beaucoup de survivants, une centaine à peu près. Et ces survivants ont effectivement parlé et ont vu les deux religieuses. Donc à partir de ces informations qui ont été portées devant la justice française, celle-ci a senti qu'effectivement il y avait suffisamment d'éléments pour ouvrir une instruction. L'instruction est confiée à un juge français à l'époque qui a la chance de parler espagnol, Philippe Texier. Et Philippe Texier va effectivement connaître un des moments les plus marquants de cette première instruction, c'est la reconnaissance d'Alfredo Astiz. Car Alfredo Astiz avait infiltré, c'était un officier de la marine, avait infiltré les premiers groupes des maires de la place de Mai, de l'église de la Santa Cruz, et s'était fait passer, comme vous le savez, pour un pauvre garçon qui cherchait son frère, sous le nom de Gustavo Niño. Après l'arrestation des religieuses le 8 et le 11 décembre 1977, Gustavo Niño disparaît totalement. Et lorsque la guerre des Malouines éclate de avril 82 à juin 82, Astiz va apparaître sur les écrans de télévision argentins car il est le responsable de la reddition de l'île de Georgia dans le sud de la péninsule. Et effectivement, malgré sa barbe, certaines maires de la place de Mai vont reconnaître Astiz. Et à ce moment-là, effectivement, il va être demandé par les familles et par les avocats à l'époque au juge d'aller l'interroger. Philippe Texier va envoyer plusieurs demandes à celui qui détenait à ce moment-là Astiz en qualité de prisonnier de guerre, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Nous avons appris très récemment que les demandes qui ont été faites à l'époque par Philippe Texier pour entendre Astiz ne sont jamais parvenues aux autorités anglaises. Cependant, Astiz a fait savoir par ses avocats à l'époque qu'il était prisonnier de guerre et qu'il ne parlerait absolument à personne. Ensuite, Astiz a été libéré par les autorités anglaises et il a rejoint, grâce à l'aide, oserais-je dire, du Brésil à l'époque, de l'armée brésilienne à l'époque, il a rejoint l'Argentine. L'instruction va donc se clore en France sur le seul cas des deux religieuses. Les autres cas ne peuvent pas être pris en considération à cause du défaut d'information que l'on a. Et la première décision qui va être rendue sera la réclusion criminelle à perpétuité pour Astis le 16 mars 1990. Sur quel fondement juridique ? Sur un fondement juridique qui est le suivant et qui restera immuablement le même, qui est celui de l'enlèvement, la séquestration arbitraire, l'arrestation illégale, torture et mauvais traitements, ou traitements inhumains. C'est sur cette base que est condamné Astis en 1990 par la cour d'assises de Paris. Je vous demande de retenir cette qualification parce que, effectivement, plusieurs questions vont pouvoir se poser par la suite. Ce procès se termine et il n'est suivi à l'époque d'aucun autre. Aucun autre procès ne va effectivement s'ouvrir, aucune instruction ne va se faire à Paris. À l'époque, les Espagnols étaient en train de réfléchir à la possibilité d'ouvrir sur une disposition particulière du droit espagnol dans laquelle je n'entre pas, d'ouvrir des instructions pour les dictatures argentines, les dictatures chiliennes et les disparus de toute nationalité. Et avec, à ce moment-là, l'Association des Français disparus, présidée à une époque par Jean-Pierre Land, présent dans la salle, présidée ultérieurement par M. Jean Domère, également présent dans la salle, plus les familles de victimes, nous nous sommes posé la question de, effectivement, porter le cas des autres Français. Les deux religieuses ne pouvaient plus faire l'objet d'une décision de justice, puisque justice avait déjà été rendue. Nous avons donc songé à la possibilité d'ouvrir en France des procédures. L'Espagne va ouvrir une instruction en août 1996 et elle va, dans le cadre de cette instruction, pardonnez-moi, mais on est horriblement mal parce que les micros ne sont pas du tout à la hauteur, à la suite l'ouverture de ce procès, Garzón, comme vous le savez, va faire arrêter à Londres Augusto Pinochet. Garzón est à l'époque chargé du procès chargé de l'instruction relative à la dictature argentine. Mais il va demander l'arrestation de Pinochet à Londres sur le fondement du plan Condor, qui était l'alliance des dictatures du Cône Sud pour faciliter les arrestations entre eux. Et effectivement, les plaintes que nous avions déjà préparées, que nous voulions présenter à la justice, vont bénéficier de cet appel d'air qui est tout d'un coup créé par l'arrestation de Pinochet à Londres. Donc, dans les jours qui suivent l'arrestation de Pinochet à Londres, les plaintes étaient déjà prêtes et je les ai déposées avec d'autres devant la justice française. Ces plaintes ont été déposées sur deux fondements. Sur le même fondement que précédemment, à savoir séquestration, détention illégale, torture, mauvais traitement, et également sur le fondement du crime contre l'humanité. Toutes les personnes étaient effectivement disparues. Elles pouvaient ressortir de deux catégories juridiques, celle déjà utilisée ou celle du crime contre l'humanité. Elles n'ont été retenues que sur le fondement de la séquestration avec torture. Pourquoi n'a-t-on pas effectivement fait se rencontrer le concept juridique de crime contre l'humanité, qui est un concept qui retient la disparition de personnes, la torture, la séquestration, les mauvais traitements ou les traitements inhumains, dans le cadre d'un plan systématique mené par une autorité supérieure. C'était exactement ce qui s'est passé en Argentine. Et pourquoi a-t-on choisi une catégorie beaucoup plus étroite, qui est celle que l'on pourrait faire porter à n'importe quel criminel qui n'agit pas sous les ordres de l'armée et qui n'agit pas à grande échelle. Alors, est-ce que la qualification de crime contre l'humanité existe en droit français ? La réponse est oui. Vous savez qu'elles ont été rendues plusieurs décisions en France, jugeant des responsables des crimes nazis, à l'époque et ultérieurement, sur le fondement de crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité existe donc à partir des statuts du tribunal militaire de Nuremberg, qui a jugé les grands criminels de guerre, mais c'était ce qu'on appelle un tribunal ad hoc, ça n'était pas une juridiction nationale, c'était une juridiction composée exclusivement pour le problème précis du châtiment des grands criminels du régime nazi. Et ultérieurement, la qualification de crime contre l'humanité a été intégrée dans le code français par une loi sur l'imprescriptibilité, où on a reconnu qu'effectivement, le crime contre l'humanité était imprescriptible. C'était en 1962. Tout cela antérieurement à la disparition des Français en Argentine. Ce qui se passe dans cette période postérieure à 1962, ce sont plusieurs grands procès de responsables français ou nazis ayant agi pendant l'occupation. C'est l'instruction Touvier, Leguet, Bousquet, Papon, par exemple. Et au fil de cette jurisprudence, va se forger l'idée juridique tout à fait pernicieuse, tout à fait aberrante, sur le plan et juridique et sur le plan de l'équité, que, en fait, pour que le crime contre l'humanité soit reconnu comme tel, il faut qu'il ait été commis dans la période des régimes nazis ou des régimes fascistes. C'est-à-dire que si une personne a été torturée de la même façon par une autorité supérieure étatique, dans le cadre d'un plan systématique, mais que tout ça ne s'est pas produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, la personne ne peut pas effectivement voir condamner son tortionnaire pour crime contre l'humanité. Ce qui fait que, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945, jusqu'à l'incorporation dans le Code français en janvier 1994 de la qualification de génocide et de crime contre l'humanité, il n'y a pas, pour la justice française, de crime contre l'humanité qui ait été commis de par le monde. Il y a simplement des séquestrations avec torture, des homicides ou des assassinats. Alors, vous aurez bien compris, je pense tous, que l'explication n'est nullement juridique. On a pris les statuts de Nuremberg et on a, de la compétence du tribunal qui faisait partie du préambule, on a descendu le concept « nous sommes ici rassemblés pour juger les grands criminels de l'Axe ». On a descendu cette catégorie dans la définition du crime contre l'humanité. Donc, on arrive à cette aberration juridique où c'est le bourreau qui décide de la qualification juridique et non pas la qualité de la victime, qui est censée avoir été poursuivie pour son appartenance à une religion, à une race, à un groupe politique ou à un groupe humain. L'explication est toute simple, elle est politique et non pas juridique. La justice française a tout fait à ce moment-là pour que les grands crimes de la colonisation française, Indochine et Algérie, ne soient jamais portés devant la justice française. De cette aberration juridique, mais tout à fait compréhensible sur le plan politique, eh bien, nous allons, hélas, dans les procès qui vont s'ouvrir, en supporter les conséquences. Premièrement, nous avons un crime qui est un crime ordinaire, à savoir celui de séquestration, arrestation illégale, etc. Les crimes en droit français se prescrivent par 10 ans. Et c'est le grand monstre qui arrive effectivement lorsqu'on ne peut pas juger sur le fondement du crime contre l'humanité, c'est celui de la prescription. La prescription est le principe juridique selon lequel, passé un certain laps de temps, 10 ans pour les crimes, on ne peut plus juger. C'est absolument impossible, on ne peut plus juger au nom de la paix civile. Il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de rapports et plus personne ne s'intéresse. Et donc, le crime est en quelque sorte effacé. Pour que les procédures soient admises en France, non pas à l'époque d'Alice et de Léonie, puisque pour elles, on était toujours dans le temps de la prescription, puisqu'elles sont arrêtées en 78 et l'instruction s'ouvre en 1982. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté, mais il en y avait une énorme lorsque je présente les plaintes entre 1998 et l'année 2000. Et à ce moment-là, le principe juridique qui a été utilisé est celui selon lequel la séquestration est un crime continu. C'est-à-dire que la séquestration se produit, se réalise à un moment donné, mais elle dure dans le temps tant que la personne n'a pas réapparu physiquement ou que son corps n'est pas retrouvé. Donc, hormis les cas pour lesquels les corps ont été retrouvés, c'est-à-dire celui de Léonie et celui de Hildemergue, toutes les autres victimes ne voient pas le crime dont elles ont été l'objet prescrit. La prescription, le compte à rebours du temps, n'a pas encore commencé. Mais il y avait un deuxième problème, et c'est le problème qui a été illustré par le cas de Gabrielle Longueville. Gabrielle est une personne qui a été assassinée. On a retrouvé un corps dans le cas de Gabrielle. Donc, on retrouve un corps, on ne peut pas juger sur crime contre l'humanité, donc on juge sur assassinat. Assassinat, c'est un crime qui se prescrit par 10. J'ai donc présenté la première plainte sur le fondement de l'assassinat, bien évidemment, et également sur le fondement du crime contre l'humanité. Pour l'assassinat, je fais valoir que la prescription a été à plusieurs reprises interrompue, parce qu'il y avait la dictature, on ne pouvait pas porter plainte, et que donc la justice était inopérante, et également du crime contre l'humanité. Le juge d'instruction ne l'a pas admis sur le principe, comme je vous l'ai indiqué, du crime contre l'humanité qui est rejeté, et j'ai fait appel, c'est à quoi M. Tracol a fait allusion, devant la chambre de l'accusation à l'époque. Et la chambre de l'accusation a renvoyé à l'instruction en disant « il faut vérifier que, effectivement, la prescription a pu être interrompue, et il faut aussi vérifier si ça n'est pas un crime contre l'humanité ». Malheureusement, le dossier n'a pas été renvoyé à l'époque devant le juge qui s'est occupé des autres plaintes, à savoir Roger Leloir, mais devant Sylvia Caillard. Roger Leloir a effectivement, au cours de son instruction, malgré cette funeste décision, mais qui a pu être rattrapée, Roger Leloir a fait une instruction tout à fait exemplaire. Et au cours de cette instruction, plusieurs coups de théâtre sont venus l'émailler. Le premier a été, Marie-Noël en a parlé pendant un certain temps, je l'en remercie, ça a été l'arrestation qui a pu être rendue possible de Jorge Oliveira, qui est un des responsables de la détention et de la disparition de Mariam. À la suite, je ne vous raconterai pas la course-poursuite que cela a représenté, mais cette personne qui ensuite était devenue un avocat d'extrême droite, avait eu la funeste idée de vouloir présenter une plainte contre Madame Thatcher dans le cadre de la guerre des Malouines, devant la juridiction de Strasbourg, parce que Margaret Thatcher, ce qui est au demeurant exact, avait bombardé le Belgrano argentin en dehors du périmètre de combat. Bon, en apprenant cela, j'ai essayé effectivement de le faire arrêter. Je vous passe tous les pièges que l'on a tendus pour réussir à l'arrêter. Il a été arrêté à Rome, finalement, et la justice italienne l'a relâché avec les complicités dénoncées par Marie-Noël, l'a relâché un mois et demi plus tard, deux mois à peu près plus tard. Mais il n'en est pas moins demeuré que Jorge Oliveira, à partir de ce moment-là, a été marqué au fer rouge. On l'a poursuivi en Argentine, on a demandé sa destitution comme avocat, et il a fini par disparaître de la scène nationale. Et effectivement, c'est une très grande satisfaction, d'abord pour la famille Elise, mais également pour moi-même, de voir qu'à l'heure actuelle, il est assis sur le banc des accusés, sur les lieux du crime à Saint-Croix. Alors j'ai demandé au juge à plusieurs reprises de faire en sorte que le juge argentin fasse ouvrir des tombes. Il y a plusieurs tombes dans le cimetière de San Juan qui sont des tombes anonymes, et il ne serait pas impossible qu'effectivement les ossements de Marianne, s'y retrouvent. Le juge français jusqu'à présent n'a rien fait dans ce sens, mais je ne désespère pas. Donc le problème d'arrêter des personnes à l'extérieur, c'est effectivement d'arriver à les retrouver et d'arriver à faire en sorte que les autorités argentines les arrêtent. À partir du moment où Astis a été condamné, j'ai demandé à de très nombreuses reprises avec les familles d'Alice et de Léonie, avec Jean-Pierre Land également, de ce que Astis soit envoyé en France. Il faisait le coup d'une décision définitive. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse, jamais, à aucun moment, si la justice argentine l'a arrêté, elle l'a arrêté pour un mois et demi, en le relâchant immédiatement, mais jamais il n'est venu devant une justice française. Le deuxième événement, ça sera la course-poursuite, parce que ce sont toujours des courses-poursuites, de Miguel Ángel Cavallo, qui lui avait été un des acteurs au sein de la ESMA du blanchiment du bien des victimes. On faisait une série de ventes fictives et en fin de course, on faisait une vente avec une personne de bonne foi et on avait effectivement récolté les fonds entre-temps. C'était le grand travail de Cavallo. Cavallo a également été très actif au Centro Piloto, qui était un centre d'espionnage à Paris, déguisé en centre culturel de l'ambassade d'Argentine, où effectivement Astis a travaillé, si je puis dire, jusqu'à ce qu'il soit reconnu et reparte en Argentine, par des voies que nous n'avons jamais pu élucider. Et donc Miguel Ángel Cavallo avait gagné à Mexico le marché de licitation des plaques d'immatriculation de voitures, ce qui avait beaucoup vexé les Mexicains, et de très nombreux articles étaient parus dans la presse. Et un jour apparaît la photo de Miguel Ángel Cavallo. Et c'est à ce moment-là que des victimes de cette personne à Buenos Aires ou dans le reste de l'Argentine m'appellent en me demandant de le faire arrêter. Le juge français n'a pas voulu y procéder parce que nous n'avions pas de témoignage direct, ce qui était exact, de la complicité ou de l'action directe possible de Miguel Ángel Cavallo au sein de la ESMA, avec simplement les deux victimes que nous y avions, à savoir Léonie Gay et Alice Daumont. Et à ce moment-là, j'ai fait en sorte que ça soit le juge espagnol, qui avait une compétence beaucoup plus large, qui puisse effectivement le faire arrêter. Et il a été arrêté aussi grâce à l'ingéniosité, le génie juridique, oserais-je dire, du chef d'Interpol à l'époque, Edmundson, au Mexique. Il a lui aussi été marqué à vie. Il y a eu tout un échange où il a d'abord été envoyé en Espagne et ensuite l'Argentine l'a réclamé à nouveau, et Cavallo a été condamné il y a 2 mois. Pourquoi est-ce que l'Espagne avait une compétence plus large? L'Espagne jugeait toutes les nationalités, alors que la France ne juge que si la victime est une victime française. Si la victime n'est pas de nationalité française, la justice et les tribunaux français sont inopérants. Et au cours de cette longue instruction qui s'ouvre en 1998, effectivement, plusieurs familles d'Argentine, portant des noms français, se sont approchées de moi pour que l'on puisse présenter le cas à la justice française. Et j'étais à chaque fois obligée de leur dire « Mais apportez-moi des preuves de la nationalité française. » Remontez l'histoire de votre famille, parce que c'est la famille qui est dépositaire de l'histoire et de la mémoire dans ce cas-là. Donnez-moi des éléments, interrogez les oncles, etc., pour qu'effectivement je puisse prouver la nationalité de l'intéressé. C'est le premier barrage qui a été mis par la justice française. Sans nationalité française, c'est absolument impossible. Donc, les personnes dont vous avez vu les disparus, dont vous avez vu les visages apparaître au fil de ces heures, Effectivement, il y en a beaucoup pour lesquels aucune action n'a pu être possible devant la justice parce que je ne pouvais pas prouver la nationalité française. Le troisième épisode, disons marquant de cette procédure, a été la demande d'audition de Karol Rukav. Maurice Jäger, que vous avez vu, le visage triste apparaître sur l'écran, était un journaliste français qui avait... la famille avait fui les pogroms en Pologne, ils étaient réfugiés en France, et ensuite ils vont venir s'installer en Argentine dans les années 60. Il était journaliste dans le nord de l'Argentine, à Tucumán. Et il est arrêté dans ce qu'on a appelé le plan Independencia. C'est le premier plan de répression organisé qui est installé en Argentine avant l'ouverture officielle de la dictature. Puisque en février 1975, le gouvernement constitutionnel d'Isabel Perón va voter une loi de maintien de l'ordre dont l'un des articles déclare qu'il faut éradiquer la subversion dans cette province de l'Argentine. Ce décret est ensuite étendu en octobre de la même année au reste du pays, dont le plan de répression qui est mis en place à cette époque est celui qui est repris par les militaires à partir de 1976. Maurice va disparaître en juillet, c'est-à-dire dans l'application du plan Independencia avant son extension sur le reste du pays. Et un des signataires du décret, le décret a été signé par plusieurs ministres, c'était Karol Rukav, qui à l'époque était ministre du Travail. J'apprends qu'il va faire un voyage diplomatique en France en qualité de ministre des Affaires étrangères de Carlos Menem, et je demande au juge français de l'interroger. Alors, on n'a pas demandé sa détention, bien sûr, simplement se présenter devant le juge et de dire ce qu'il savait du plan Independencia, de son élaboration et de son application. Sous des prétextes divers et variés, il a répondu en disant qu'il était très occupé, mais qu'il ferait l'impossible pour se présenter. Il ne s'est jamais présenté. Alors, avec Henry Kissinger, donc aussi l'audition a été demandée, lui a été beaucoup plus tranchant, il a disparu purement et simplement de l'hôtel Crillon où il était hébergé à ce moment-là, parce qu'effectivement il était intéressant de l'entendre dans un contexte plus général. Je vous disais que l'instruction donc de Roger Leloir a été exemplaire et elle a permis, et je pense que ça a été très manifeste dans le cas de la demande d'audition de Karol Rukav. C'est qu'elle a fait revivre au fil des années, au fil des événements, c'est une instruction qui est d'ailleurs toujours ouverte, qui est plus courte que l'instruction chilienne, plus longue que l'instruction chilienne, les événements que je viens d'évoquer ont à chaque fois permis de mettre en lumière la figure d'un disparu. Maurice était une personne dont on parlait peu, qui était presque un Français qui avait disparu une deuxième fois parce qu'il avait plus ou moins disparu des mémoires. Et tout d'un coup, la détention de Rukav, avec une mention dans Le Monde, dans le ventre du Monde, si je puis dire, a tout d'un coup fait revivre pendant 24 heures la figure de Maurice. Le cas de Maurice était aussi intéressant parce que devant la justice, j'ai présenté son cas et celui de sa compagne, parce que sa compagne était enceinte. Et à l'inverse de la justice argentine, la justice française ne reconnaît pas comme sujet et objet de droit l'enfant à naître. Donc cette personne pouvait porter un enfant français, potentiellement français, il n'était pas encore une personne juridique. Donc effectivement, cette partie a été rejetée, mais a permis néanmoins de présenter, d'exposer devant la justice le phénomène des enfants disparus sur lequel Jeanne Dupuis, ici présente, a énormément travaillé. Je voudrais dire ce qui caractérise à l'heure actuelle cette procédure française, et le même phénomène s'est produit pour l'instruction au Chili. J'en dirai brièvement un mot, parce que effectivement Roger Leloir a été chargé non seulement de l'instruction pour les Français disparus en Argentine, mais également pour les Français disparus au Chili. Et il a eu à s'occuper d'un Français qui est un peu entre les deux, dont vous avez vu le visage également sur cet écran, qui est Jean-Yves Claudet. Jean-Yves Claudet a disparu en octobre 1975 dans le cadre du plan Condor à Buenos Aires. Mais le juge l'a mis dans l'instruction chilienne parce qu'il était chilien et il a disparu sur ordre, bien évidemment, de la junte chilienne. À l'heure actuelle, avec le cas Amiel, ce sont les deux seuls Français que vous avez vus sur cet écran qui ont fait l'objet, à part le cas des deux religieuses, qui ont fait l'objet d'une condamnation par la justice française. Roger Amiel, son cas n'a pas été retenu par la justice pour défaut d'éléments. Donc lorsque l'on est arrivé devant la cour d'assises, il y a eu un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu à poursuite pour le cas de Roger Amiel pour défaut d'éléments. Par contre, pour le cas de Jean-Yves Claudet, il y a eu une condamnation à perpétuité de plusieurs responsables chiliens, mais également d'un responsable argentin. Pourquoi d'un responsable argentin qui s'appelle Ribeiro, son prénom m'échappe, il a un surnom très... Pardon ? José Osvaldo, merci, vient de se présenter indirectement la sœur de Jean-Yves, Jacqueline Claudet. Dans son cas, dans le cas donc, de Jean-Yves, nous avions des éléments très précis, et entre autres celui selon lequel Rawson avait été... Osvaldo Ribeiro avait été un des artisans de l'application du plan Condor à Buenos Aires. Très peu d'éléments existent sur Jean-Yves, sur sa disparition, mais beaucoup sur les responsables, parce qu'ont été retrouvés ultérieurement des correspondances entre Rawson et l'agent chilien Arancibia Clavel, très connu au Chili, des rapports sur les différentes personnes arrêtées à Buenos Aires. Et un jour apparaît effectivement le nom de Jean-Yves Claudet. Ribeiro a été condamné par la cour d'assises il y a un an, en décembre 2010, le 17 décembre. Un mandat d'arrêt a été délivré en 2000 contre Osvaldo Ribeiro. Ce mandat d'arrêt a été réitéré en 2005. Il a été réitéré également par la cour d'assises. Et aujourd'hui, je voudrais en quelque sorte lancer un appel solennel et j'espère que les autorités argentines m'entendront, c'est que Ribeiro, qui n'est poursuivi actuellement par aucune juridiction, ni argentine, ni autre que la française, Ribeiro est à l'heure actuelle en liberté totale en Argentine. Il n'est pas inquiété en Argentine. Aucun procès, aucune instruction ne sont ouvertes contre lui. Il n'existe que la demande de la France de son arrestation. Je me tiens à la disposition des autorités argentines pour que, effectivement, il y ait une collaboration efficace qui puisse se faire, tout comme elle a existé pour le cas d'Oliveira, pour que, effectivement, Ribeiro soit extradé en France. Je concède à la justice argentine d'ouvrir une instruction, mais d'abord, vous le renvoyez en France. C'est un cas exceptionnel, car jusqu'à présent, toutes les personnes poursuivies dans la procédure française sont soit poursuivies par la justice argentine, soit déjà condamnées par la justice argentine. L'instruction chilienne, comme je vous le disais, a été clôturée. Il y a eu un procès qui s'est tenu. Des décisions tout à fait exemplaires ont été rendues, ce qui prouve que la justice française, malgré ses limitations juridiques et malgré ses limitations judiciaires, effectivement rend des décisions, et même dans des cas qui sont difficiles, des cas dans lesquels on a très peu d'éléments. Et je voudrais dire à ce propos un mot sur le cas des deux corps qui ont été retrouvés, celui de, en particulier, Yves Domergue. Yves Domergue était un des cas dans lequel nous avions le moins d'éléments avec celui de Roger Boudet. La cause de Roger Boudet est à l'heure actuelle dans le cas qui est ouvert sur Campo de Mayo. Campo de Mayo est un des camps de répression dans les premières années sur lesquels il y a extrêmement peu d'informations. Et dans le cas de Yves Demergue, nous avions très peu d'éléments. Nous pensions effectivement aussi qu'il avait été emmené au Campo de Mayo. Et j'ai donc, un jour, à l'occasion d'un voyage en Argentine, fait un déplacement à Rosario, où j'ai fait un appel général à témoins, par la télévision et par les journaux, à partir du cabinet d'un confrère d'avocat, en disant, si vous l'avez vu, si vous vous le rappelez, si vous avez vu des mouvements suspects dans telle et telle période de temps, appelez tel avocat. Je n'ai à l'époque, c'était en 2002, je n'ai à l'époque recueilli sur le répondeur de l'avocat argentin que des insultes. Donc ça a été pour moi une très grande satisfaction l'année dernière de savoir que le corps d'Yves avait effectivement été retrouvé. Des corps se retrouvent, celui de Léonie est également, en est également la preuve. Et il est manifeste que, comme je vous le disais, cette justice française, limitée, fait des choses, marque à jamais des tortionnaires et aide en quelque sorte les justices étrangères, en particulier la justice argentine. J'ai eu aussi le grand plaisir, si je puis dire, de voir Alfredo Astiz pour la première fois de ma vie en chair et en os il y a peu de temps au tribunal à Buenos Aires, à Comodoro Py. Mais aide cette justice et je veux croire que, effectivement, un jour la justice française voudra bien ouvrir pour cette période de temps, des instructions sur le fondement du crime contre l'humanité et rendre donc à cette répression son véritable visage, c'est-à-dire le visage d'une répression systématique qui a pratiqué la torture de manière généralisée sur des personnes la plupart du temps sans défense, des personnes la plupart du temps extrêmement vulnérables. Je rends ici un spécial hommage à la continuité du travail des familles. Sans les familles, ce travail ne serait pas possible. Sans les associations, ce travail ne serait pas possible non plus. Et sans le travail non plus de quelques magistrats français en l'occurrence. Je vous remercie.